Voilà, bonsoir. Il est 20h30. Nous allons démarrer ce conseil municipal du jeudi 5 mars 2026. Je vais donner quelques règles et rappeler quelques éléments pour la conduite de ce conseil. Je profite simplement de cette dernière occasion officielle pour remercier vivement et collectivement l'ensemble des conseillers municipaux pour leur engagement au cours de ces 6 années. Je n'aurai pas d'autre occasion officielle de le faire. Je le fais donc ce soir. Et je vous remercie pour votre engagement qui a été important, constant, qui a été dans le sens du service à la collectivité et dans le sens de l'intérêt général. Ce fut pour moi un plaisir et un honneur d'accompagner cette équipe municipale durant ces 6 années. Merci infiniment. Le conseil municipal de ce soir concerne le vote du budget. Il est très formalisé. Et je me permets de vous rappeler donc les règles d'usage. Les règles d'usage, lors du conseil municipal, son début est signifié et sa fin est signifiée également. Et durant le conseil, seuls les élus présents ont le droit de solliciter la parole et de la prendre. Dans l'ordre du jour, le point concernant les questions diverses s'adresse uniquement aux élus. Cependant, le conseil terminé, nous proposerons aux personnes présentes la possibilité de pouvoir poser des questions éventuelles auxquelles nous tenterons d'apporter des réponses. Et si il y a des réponses qu'on ne peut pas apporter, on s'engage à leur apporter cette réponse dans les délais les plus courts. Ce soir, il y a 2 délibérations qui concernent la présentation de ce qu'on appelle désormais le compte financier unique. Et par les textes, elles ne peuvent pas, ces 2 délibérations, être présentées par le maire. Donc, il conviendra de désigner pour ces 2 délibérations un président temporaire et je sortirai de la pièce pour ces 2 prises de décisions. Ne vous inquiétez pas, outre mesure, c'est la règle. Le compte financier unique est un document budgétaire qui est commun entre l'ordonnateur et le comptable. L'ordonnateur, c'est le centre de gestion et le comptable. L'ordonnateur, c'est nous, pardon, le centre de gestion et le comptable. Et ce compte financier unique, c'est une nouvelle procédure comptable qui est, pour nous, on la teste ce soir, et toutes les communes ne sont pas encore passées à ce qu'on appelle désormais le CFU, mais on a fait le choix, nous, de pouvoir y passer. Avant le vote des documents budgétaires, Michel Prévost vous présentera un document qui est plus pédagogique et qui apporte, en tout cas, un éclairage plus accessible aux éléments financiers qui feront l'objet des délibérations. Nous avons fait cet effort pédagogique les années précédentes et nous faisons le choix de le poursuivre cette année. Je dois dire que les élus présents autour de la table ont déjà eu cette présentation il y a quelques jours. Donc on verra s'il y a des questions, mais vous avez déjà eu, vous, cette approche-là. Le conseil municipal a été déplacé d'une semaine. L'origine de ce changement est à retrouver dans la panne nationale du système informatique de gestion des services financiers de l'État. La Direction générale des finances publiques a en effet, sur la France entière, été dans l'impossibilité de recevoir, de transmettre les flux d'informations qui viennent des collectivités et ainsi de valider les bilans 2025, et ce, depuis le 5 février jusqu'à ces derniers jours. Nombre de collectivités n'ont pas pu mettre à jour leurs données dans les temps et valider les résultats de leur exercice 2025 et ainsi finaliser le budget primitif 2026. Grâce au travail soutenu de Madame Bouvier, de Marie-Laure, et grâce à sa ténacité, nous avons mené à bien ce travail dans le temps souhaité et je l'en remercie également vivement. Pour cette séance, ce dernier conseil municipal, la secrétaire de séance sera Carole Thomas.
Ça aurait été dommage
de ne pas finir comme ça. Et il y a un pouvoir qui a été fait par Simone Guichard et qui a donné pouvoir à Agnès Guigon. Donc Agnès, quand tu voteras, il faudra penser à voter de tes deux mains. Voilà, je vais soumettre, avant de vous donner connaissance de l'ordre du jour, comme ça je ne vais pas l'oublier, la proposition que je vais vous demander de voter, que le président de séance pendant les deux délibérations auxquelles je n'assisterai pas, soit Philippe Bougnard. Qui est pour cette proposition? Je vous remercie. Je vais vous donner lecture de l'ordre du jour. Si vous avez pris connaissance de l'ordre du jour qui vous a été transmis et qui a été aussi communiqué à l'extérieur, il y a deux annotations. Il y avait des propositions, notamment sur l'affectation des résultats. Il était écrit « ou reprise anticipée des résultats ». Cette précaution de rédaction était liée au fait que si nous n'avions pas eu le retour de la DGFiP concernant les reprises d'exercice de l'année 2025, on aurait pu les anticiper. Mais donc ça a été rayé parce qu'on passe à la première hypothèse, c'est-à-dire l'affectation des résultats qui ont été validés par la DGFiP. Donc cette précaution oratoire étant prise, l'ordre du jour, on va d'abord approuver approbation du compte financier unique 2025 en ce qui concerne le budget principal. C'est la période où je serai absent. Ensuite, l'affectation des résultats 2025 en ce qui concerne toujours le budget principal. Ensuite, Philippe Bougnard présentera en ce qui concerne le budget assainissement, l'approbation du compte financier unique 2025, en mon absence. À mon retour, nous délibérerons sur l'affectation des résultats 2025 et la suite des délibérations concerneront le vote des taux d'imposition, puis le vote du budget primitif du budget principal et le vote du budget primitif 2026 pour le budget d'assainissement. Ensuite, les délibérations concerneront l'approbation de la modification de droit commun numéro 4 du PLU. La délibération suivante concernera la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, puis la création d'un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe. La délibération suivante concernera la création d'un poste d'adjoint technique principal, je veux dire pour vous rassurez, ce n'est pas des créations de postes, c'est des évolutions d'ancienneté en fait dans ces postes, mais ça équivaut à la création d'un poste. Ensuite, il y a une motion de soutien pour la liberté locale et les moyens d'agir des communes, qui est une motion qui est proposée par l'Association des maires de France. Et enfin, je ferai le compte-rendu des décisions que j'ai prises dans le cadre des délégations que vous m'avez accordées en termes d'achat ou de signature de commandes. Ensuite, il y aura la dernier élément de ce conseil municipal, les questions diverses qui concernent, je l'ai dit tout à l'heure, les élus uniquement. Oui, exact, je l'ai oublié en disant. Merci, Denis, de ta vigilance. Donc, j'avais oublié, Denis Bérard a fait remarquer une délibération qui concerne les crédits affectés à la formation des élus municipaux. Merci, j'étais allé trop vite. Si on a tout fait dans les règles, je laisse la parole à Michel Prévost pour la présentation pédagogique
de ce budget.
Merci Pierre. Bien, ben effectivement, comme Pierre le précisait, on a pris l'habitude depuis 6 ans de faire une présentation synthétique sous forme d'un document qui soit un peu plus accessible à l'ensemble des présents. Et donc, je vais vous faire cette présentation dès maintenant. Tout d'abord, c'est bien de le préciser, la présentation qui va suivre ne relève d'aucune obligation réglementaire, elle est purement informative. Alors pourquoi faire un budget ? Le budget, c'est la colonne vertébrale de la gestion de la commune. Il permet de définir les orientations budgétaires de l'année. Il permet également d'accompagner le développement de la commune et de déterminer les investissements à engager, notamment sur l'exercice 2025 pour ce qui concerne les délibérations de ce soir. Il contribue également à établir les perspectives à moyen et long terme, fondées sur une analyse approfondie des besoins courants et des programmes d'investissement et pluriannuels, puisque certains investissements portent sur plusieurs exercices. Il est... Oui, 2026, pas 2025, pardon. Il est adossé aux engagements bancaires pour une pleine maîtrise de notre endettement. Alors, le budget a des principes. Il est établi sur un principe de recette des dépenses. Il doit être juste et sincère. Ces recettes et dépenses doivent être équilibrées et elles s'appliquent aux charges de fonctionnement et aux programmes d'investissement. Alors, le budget est élaboré à partir de dépenses de fonctionnement qui sont mises en parallèle avec les recettes. Et le solde de poste, recettes-dépenses, est affecté au budget d'investissement. C'est la partie épargne du budget global. Et les recettes d'investissement, les recettes qui proviennent, pardon, qui sont appliquées au programme d'investissement, peuvent être agrémentées soit avec l'octroi de subventions, soit par recours au crédit bancaire. Alors avant de passer sur le budget primitif 2026, on va, comme on doit valider les résultats de 2025, on va faire un retour sur les lignes du budget 2025. Alors tout d'abord, on a quand même eu une bonne surprise à la fin de l'exercice, puisqu'on avait des recettes prévisionnelles qui étaient établies à 1 618 000 euros, et elles se sont réellement fixées à 1 632 000. Donc on a un écart positif de 14 000 euros et c'est un peu moins de 1%. Alors de où proviennent ces écarts ? Alors des remboursements sur charges de personnel, très souvent ce sont des résultats qui sont issus de remboursements d'arrêt maladie, des prestations de services qui ont été moindres que celles qui étaient prévues et ça porte notamment sur des locations, sur les tarifs du cimetière et sur des budgets annexes, notamment le budget du CCAS. Les impôts et taxes, c'est une dotation qui a été supplémentaire. La dotation globale plus 10 000, c'est l'État et le département, et celle-ci, elle est liée à l'évolution de la population. Et puis des autres produits de gestion courante qui sont notamment, dans le cas précis, des remboursements d'assurance et de sinistres qui sont des produits exceptionnels. Alors, les recettes de fonctionnement, donc elles s'établissent à 1 632 000 versus 1 618 000. Et donc, on a un résultat d'exploitation qui est à hauteur de 236 000 euros et qui est valorisé pour une partie importante des restes à réaliser de l'exercice 2024. Alors, habituellement, on n'a pas un montant aussi important puisque les restes réalisés sont valorisés ailleurs dans le budget. Sauf qu'en début 2025, on a fait un changement de mode comptable et ce mode comptable ne permettait pas de reprendre les restes à réaliser, donc ils ont été affectés intégralement aux résultats d'exploitation. Ensuite, on a un poste d'atténuation de charges qui porte notamment sur des recettes de fonctionnement supérieures sur les charges de personnel. Sur lesquels on a aussi ajouté des produits exceptionnels et des produits sur immobilisation. On a des produits de service à hauteur de 62 000 euros qui portent principalement sur la piscine, la cantine, l'accueil périscolaire et l'agence postale. Alors l'agence postale, c'est une indemnité qui nous est versée par la Poste pour les services rendus pour la Poste. Et cantine APS, ce sont les cotisations des parents qui repartent notamment dans le budget de fonctionnement au niveau des dépenses quant aux charges de fonctionnement de ces services. Et la piscine, c'est tous les produits qui sont issus de services sur la piscine. Des impôts et taxes pour 956 000 euros. qui sont les impôts directs locaux, l'attribution compensatoire de la Comcom, le Fonds national de garantie qui sert le FNGR, qui sert à compenser la suppression de la taxe professionnelle en 2010, et puis des droits de place marché et des taxes sur les pylônes électriques sur la commune. Ensuite, on a un deuxième pavé qui est les dotations et participations à hauteur de 319 000 euros. Donc c'est la dotation forfaitaire qui est servie par l'État. Dedans, on a aussi la DSR qui est la dotation de solidarité rurale qui permet de compenser les charges administratives des petites communes. On a des subventions sur charges de fonctionnement RH, les droits de mutation, et on a à nouveau des compensations sur la réforme TP et la compensation sur l'exo de la taxe d'habitation qui a été finalisée dans son intégralité en 2023. On a des autres produits de gestion courante à hauteur de 37 000 euros qui sont des produits financiers, notamment issus des immeubles. Alors à noter quand même que lorsque l'on prend les dotations de l'État à impôts et taxes et les dotations à des participations, on est sur un total de 78%, 0,7. Les dépenses de fonctionnement. Donc on a un écart de 47 000 euros entre les dépenses initialement prévues. On a vu tout à l'heure 1 632 000 de recettes et on a 1 585 000 de dépenses. Et donc on a des recettes réelles, ben on a plus de 14 000 euros, on l'a vu tout à l'heure, et on a des dépenses réelles qui sont inférieures de 33 000 euros par rapport au budget prévisionnel qu'on avait établi en début d'exercice, et c'est un écart de moins 2%. Donc on est quand même dans une approche prévisionnelle précise du budget. On a des charges à caractère général qui représentent 22% des dépenses, qui portent notamment essentiellement sur l'énergie, l'électricité, la maintenance, les travaux des bâtiments, dont les travaux en régie, et les voiries réseaux et les entretiens locaux. Donc la voirie, c'est toute la partie maintenance des voiries. On verra l'autre partie dans le budget investissement. On a des charges à caractère général à hauteur de 350 000 euros, pardon. Non, ça, je viens de le dire. Et on a des autres charges de gestion courante pour 113 000 euros, qui sont les indemnités des élus, les services d'incendie et les subventions aux associations. Alors, au regard de tous ces éléments-là, le budget prévisionnel a été atteint à près de 98%, donc ce qui montre quand même la fiabilité des données dans la construction du budget prévisionnel en début d'exercice. On a donc réalisé une économie de 33 000 euros sur les dépenses sans affecter pour autant la qualité des prestations servies. Et ce sont des prévisions qui sont ajustées au plus près du quotidien grâce à un travail d'analyse et un suivi rigoureux des agentes comptables au fil de l'eau. Et on peut effectivement à nouveau les remercier sur le travail effectué dans la gestion du budget. On va passer sur les investissements 2025. Alors, on a un global d'investissement de 867 000 euros. Qui a été réalisé à hauteur de 724 000 euros, soit 84%. Sur ces investissements, on a eu des subventions à hauteur de 442 000 euros, soit une moyenne de 51%. Alors, globalement, sur l'ensemble des pavés que vous voyez sur cette diapositive, l'ensemble a été réalisé quasiment à 100%, à quelques différentiels, avec quelques différentiels à la marge. Bien sûr, il y a des projets pluriannuels, je le disais en début de propos, des programmes importants, techniquement et ou financièrement, qui doivent porter sur plusieurs exercices, avec un report des soldes à N plus 1. Alors, on le voit sur les travaux d'éclairage, où on avait un budget prévisionnel de 34 000 qui a atteint 20 000, soit un écart de 14 000 euros, et on le retrouvera sur l'exercice 2026. On a des travaux d'hiver qui sont atteints à 70%, avec un report aussi sur l'exercice suivant de 11 000 euros. La liaison voie verte qui a été réalisée à hauteur de 80%, et le groupe scolaire qui a été réalisé à hauteur de 77%. Et ces éléments-là seront reportés sur l'exercice 2026 au travers de ce que l'on appelle les restes à réaliser. Ce sont des programmes qui sont engagés, sur lesquels on est obligé, puisqu'on a signé des devis, etc. Donc on a un engagement vis-à-vis des intervenants, et comme ça n'a pas pu être terminé sur l'exercice, ça s'est reconduit sur l'exercice suivant. Alors à l'issue de la présentation que je viens de faire, Pierre le disait tout à l'heure, il y a donc deux délibérations spécifiques qui seront soumises au vote. Une qui sera destinée à approuver le compte financier unique, c'est la validation des résultats, et une autre qui sera destinée à approuver l'affectation des résultats sur l'exercice 2026. On va passer au budget 2026. Alors le budget global, recettes-dépenses, porte sur un total d'un peu plus de 2 millions. On a un budget de fonctionnement d'1 511 000. On aura recours à l'emprunt à hauteur de 140 000. Des subventions qui sont prévues dans le budget à hauteur de 326 000. Et des revenus autres divers qui sont liés à hauteur de 84 000, qui sont liés notamment à la PVR qui sert, c'est la participation voirie réseau qui concerne tous les travaux du lotissement de Grand Air. Au niveau des dépenses, on a 1 391 000 qui concernent les dépenses de fonctionnement et on a une virement de section d'investissement en hauteur de 120 000. Et si on fait nos 120 000 et les 1 391 000, on retrouve bien sur les 1 511 000 de départ. On a un programme d'investissement qui est établi à 509 000 euros et on a des opérations financières qui portent sur 41 000. Alors les opérations financières, elles ressortent dans le pavé des dépenses. Des opérations financières, il y en a en recettes et en dépenses. Et ça, c'est le solde entre les deux postes. Et ça, donc on est sur 41 000. Et ça porte sur donc les différences de recettes et de dépenses. Et ce sont des mouvements financiers comptables qui ne sont pas liés à des opérations directes de dépenses. C'est des remboursements de TVA, le FCTVA. Il y en a pour 80 000. C'est des remboursements d'emprunts de capital. On est sur moins 91 000. Et c'est les écarts d'excédents et de déficits du fonctionnement capitalisé au cours des années, et on est sur un total de 37 000 euros. Alors on va faire un focus sur les recettes. Donc c'est un peu le même schéma que ce qui concernait la présentation des comptes 2025. Donc on est sur un global prévisionnel d'1 511 000. Donc on aura un report du résultat d'exploitation de l'exercice 2025 dans la mesure où il aura été validé lors de la délibération qui suivra, à hauteur donc de 109 000 euros. Des atténuations de charges pour 19 000 euros, c'est toujours des régularisations de charges de personnel. Les produits et services, 51 000, ça concerne toujours la piscine, la cantine et la PC. Pas la cantine, pardon. Oui, 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 excuse-moi. Les impôts et taxes, donc 969 000 d'impôts directs locaux, 705 000, l'attribution de la Comcom à hauteur de 176 000, et puis ensuite on retrouve le Fonds national de garantie, les droits de marché, etc. Et on aura un petit focus un petit peu plus précis derrière. Les dotations et de participation qui sont de 317 000. Donc c'est toujours la dotation forfaitaire de l'État complétée des dotations de solidarité, les subventions, les droits de mutation, etc. Et des autres produits de gestion courante de 37 000 qui n'apparaissent pas sur l'écran, qui sont les produits financiers qui restent les produits des immeubles. Alors un focus sur les impôts et taxes. Donc on a donc le poste est sur 970 000. Là, il n'y a que 968 000 qui sont présentés à l'écran parce que c'est les écarts, les arrondis, etc. Et donc on a les impôts directs locaux qui sont à hauteur de 705 000, 176 000 au travers de l'attribution de la communauté de communes. Le FNGIR pour 65 000 euros, la compensation de l'ATP 2010, les droits de place pour 10 000 et 12 000 sur les taxes de pylônes électriques. Les dotations de participation, c'est pareil, qui sont sur 308 000, alors que le poste est de 317, mais c'est aussi quelques écarts qui ne sont pas sur la présentation pour ne pas alourdir la diapositive. Donc c'est des petits montants, notamment du FCTVA, etc. Alors ce que l'on peut traduire dans ce qu'on vient de passer, notamment les dotations des impôts et taxes et les dotations et participations, l'ensemble progresse de 71 000 euros sur 4 ans, donc soit plus 5,8%. Et en parallèle, l'inflation a progressé de 13% sur la même période, ce qui génère un effet de ciseau plutôt défavorable. Et quand on entend toutes les collectivités territoriales qui mettent en avant la baisse des budgets de fonctionnement, c'est traduit par ces éléments-là. On va passer sur les dépenses de fonctionnement. Donc, pareil, même topo que tout à l'heure. Donc, on a des charges de caractère général de 349 000 qui étaient sur l'exercice précédent à 353 000. Donc, on a un maintien de légère baisse, mais on est ISO par rapport à 2025. On a des charges d'électricité à 53 000 qui sont quasiment ISO. Idem pour la maintenance et les travaux de bâtiment. La voirie réseau que l'on conserve aussi à peu près au même niveau et les entretiens locaux qui sont un petit peu plus élevés aussi dans la mesure où on prévoit quelques investissements supplémentaires de dépenses de fonctionnement sur les travaux d'entretien. Les autres charges de gestion courante, 135 000 versus 113 000 pour l'année 2025, donc une progression de 22 000 euros. Alors cette charge de gestion courante, elle comprend les services d'incendie pour 29 000 euros et les subventions aux associations pour 15 000. Donc ces éléments-là sont relativement ISO. Par contre, on a un gros écart qui concerne les indemnités des élus. Alors vous le savez tous, on est dans une situation particulière puisqu'on est à une quinzaine de jours des élections municipales. Et au regard du budget qui est établi, nous avons obligation de prévoir les indemnités des élus au regard de la réglementation qui concerne la commune, donc avec un certain nombre d'élus qui peuvent être choisis par la mandature qui sera en place. Et donc on a obligation de prévoir les indemnités des élus à hauteur de ce montant-là. Donc c'est un surplus de 39 000 euros sur la période 2026, dès lors où la mandature qui prendra la relève choisira de mettre le maximum des indemnités à servir à l'ensemble des élus. Et en année pleine, c'est un écart de 80 000 euros. Si on n'avait pas cet écart-là, si on partait sur des indemnités identiques, on aurait une baisse des charges de fonctionnement de l'ordre de 38 000 euros. On a des charges de personnel à 802 000 euros, qui étaient à 780 000 en 2025, donc une progression de 21%. Les charges de personnel sont réparties pour l'essentiel 498 000 euros, ce qui représente 62% du budget des charges de personnel et les charges sociales pour les salaires et les charges sociales 290 000 euros, soit 36%, ce qui fait un total de 788 000 euros sur les charges à 802. Alors on a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui sera dans les orientations du budget aujourd'hui, c'est la mise en place du RIFSET. Je parle sous ton contrôle, Bernard, c'est une opération qui aurait dû être installée depuis 2019. Et donc, dans l'immédiat, c'est quelque chose qui est prévu d'être installé au cours du dernier trimestre 2026. Donc, l'impact sera limité, puisque ça va représenter à peu près 12 000 euros. Tout ça, ce n'est pas encore validé, bien évidemment, puisque ça relèvera des choix de la mandature à venir, en sachant que ce poids supplémentaire... Je finis et je te laisse la parole. En année pleine, on serait à 92 000 euros versus 61 par rapport à 2025. Oui.
Alors, c'est pour la clarté des débats, en particulier pour les personnes qui sont dans la salle. Donc le 7, c'est le système nouveau de prime au personnel. C'est, parce que le 7, c'est pas évident. C'est pas que c'est pour alimenter les primes. Et c'est quand même un sujet récurrent qu'on a traîné tout le mandat, parce que il y avait un tas de choses à faire avant qui devaient nous permettre d'établir ces fameuses primes, si possible, équitables aux agents. On ne parle pas des élus, on parle des agents.
Tout à fait. Merci Yves.
Parce que quand on est à l'extérieur et qu'on
n'a jamais siégé, tu as raison.
Alors, si on a déjà siégé un conseil municipal, ça doit parler. Mais quand on n'a jamais fait.
Merci Yves de ces précisions.
Un gros mot qui veut dire régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Le RIF 7. Pourquoi ?
Merci Pierre, je savais que tu savais la formule par cœur, tu retenais l'acronyme.
Alors,
et pour continuer, donc on a un réajustement des impôts et taxes à hauteur de 50 000 qui est le fonds de péréquation communale et intercommunale à hauteur de 46 000 euros. Si on regarde quelques points focus sur ce budget de fonctionnement, les dépenses à caractère général ont fait un parallèle avec l'exercice précédent, puisque on valide aussi les éléments du compte 2025. Donc en prévu, on avait 374 000 euros, réalisé 353 000, donc on est quand même très proche de ce qu'il y avait. On a des écarts de 3%. Hein. Et du coup, on a ajusté à hauteur de 362 000 euros sur cet item-là. Au niveau des charges de personnel, donc on est sur 802 000 euros. Et on avait prévu 785, on a fait 781, donc un petit peu moins 10 ans. L'écart, je viens de le préciser tout à l'heure, va être lié notamment à l'évolution du RIF 7. Enfin, la mise en place du RIF 7. On a des autres charges de gestion courante qui sont prévues à hauteur de 135 000 euros. Et on avait prévu en 2025 115 et 113. Donc, je ne le rappelle pas, mais c'est là qu'on a aussi l'écart avec l'indemnisation des indemnités élues. Alors, à savoir qu'au regard des choix qui seront faits, si l'utilisation de cette somme n'est pas prise dans son intégralité, c'est des sommes qui pourront être réaffectées au budget d'investissement, dans la mesure où l'ensemble des lignes globales du budget de fonctionnement sont globalement établies. Les investissements. Alors, les investissements sont repris sous forme de programme. Un certain nombre, notamment le pavé travaux divers, comprend plusieurs programmes qui sont rattachés, parce que derrière, on a des petits programmes avec des montants qui sont sur 5 000 euros, 10 000 euros, etc. Donc, c'est pareil, pour simplifier la présentation, elles ont été comptabilisées dans un seul programme travaux divers. Donc, la voirie porte sur 181 000 euros. Dedans, il y a l'aménagement d'une partie de la voirie de la Grand-Terre, qui sera notamment financée à hauteur de 84 000 euros dans le cadre de la PVR, la participation voirie réseau. Le reste concerne la voirie communale, et là on est sur de l'investissement, on n'est plus sur le poste de voirie qu'on évoquait tout à l'heure dans le budget de fonctionnement. À savoir que globalement, on sanctuarise environ à peu près 100 000 euros d'investissement sur la voirie tous les ans. Ensuite, on a la sécurisation du chemin du Pinard. Alors, si vous vous souvenez, dans la diapo des investissements 2026, elle apparaissait notamment à hauteur de 85 000 euros. Donc là, les travaux sont finalisés sur la sécurisation du chemin du Pinard. Et par contre, on retrouve cette somme-là dans les investissements 2026, parce que les engagements ont été pris. On parlait des restes à réaliser tout à l'heure, et les 65 000 euros qui sont là, c'est une facture qui a été établie, mais qui n'a pas pu être réglée dans l'exercice 2025 parce qu'elle est parvenue en mairie après les délais possibles de paiement de fin d'exercice. Donc elle est reportée dans les investissements 2026 pour être honorée au travers du budget investissement 2026 et à préciser que cette somme-là est adossée d'une subvention résiduelle de 30 et quelques mille euros. Sur le groupe scolaire, ben c'est pareil, on a une partie de ces éléments-là qui sont aussi des restes réalisés que l'on a vus tout à l'heure. Et puis ensuite, on a les travaux des bâtiments communaux pour 63 000 euros. Dans cette partie-là, il y a une partie de la rénovation de la salle polyvalente et de la modernisation de la salle polyvalente à hauteur de 15 000 euros. C'est 24% du programme de travaux bâtiments communaux et c'est 3% du budget global d'investissement. La liaison voie verte à hauteur de 16 000 euros, notamment c'est pour travailler sur la passerelle, c'est 3% de ce budget. Et les aménagements de l'espace du pré et ensuite la rénovation énergétique de l'école maternelle à hauteur de 15 000 euros, qui représente 3% du budget des travaux des bâtiments communaux. Ce sont des études qui sont en prévision de travaux pour 2027. L'estimation est faite, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas finalisé. Et puis, un dernier point, c'est la maison de santé, à hauteur de 58 000 euros, donc qui concerne l'étude de faisabilité et des aménagements. On a fini sur la présentation du budget principal de la commune. On va passer sur le budget annexe d'assainissement. Donc, pareil, retour sur le budget 2025. Les recettes de fonctionnement, alors on a un résultat reporté de N-1, donc résultat 2024 qui était de 31 000 euros. Des quotes-parts de subvention à hauteur de 11 000 euros. C'est des amortissements de réseau et les produits de service qui sont les affermages resservis par la SOR. Les dépenses de fonctionnement elles sont relativement modestes puisqu'on est sur un total de 29 000 euros qui représente 1 000 euros de charges personnelles. Des dotations aux amortissements à hauteur de 25 000. Vous vous souvenez qu'il y a des gros travaux qui ont été opérés dans les exercices précédents. Et donc là-dessus, on a une dotation importante aux amortissements et une charge financière à hauteur de 3 000 euros, ce qui laisse un résultat de l'exercice 2025 à hauteur de 59 000 euros, qui sera reporté sur l'exercice 2026. Et là aussi, ça fera l'objet des délibérations qu'évoquait Pierre en préambule. Le budget 2026 du budget annexe assainissement. Donc on a un budget global de 280 000 euros. Alors en bleu, vous avez les dépenses et en vert, vous avez les recettes. Vous avez un gros pavé qui s'appelle OFI, opérations financières, et je vous redonnerai des éléments de détail derrière. Donc, dans le budget de fonctionnement, on a des recettes de fonctionnement de 106 000 euros avec des charges de fonctionnement de 50 000. Et on va virer 56 000 euros à la section investissement. Donc, 50 plus 56, ça fait 106. On a un investissement de 117 000 euros à hauteur de 174 000 euros pour les OFI. Et on a un emprunt de 57 000 euros, mais on regardera son positionnement en finale. Le budget de fonctionnement de l'assainissement. Donc les prévisions 2026, on est sur un total de 106 000 euros, qui portent sur des charges à caractère général pour 10 000 euros, les charges personnelles stables à 1 000 euros, le virement de la section d'investissement, on l'a vu préalablement, 56 000 euros. Les dotations aux amortissements, à hauteur de 29 000 euros. Et des charges financières pour 10 000 euros. Le budget d'investissement. On a des travaux divers Pour 67 000 euros, il y a un dégrilleur qui va être installé sur la station d'épuration à hauteur de 50 000 euros et le reste des travaux divers d'aménagement et de maintenance sur la station d'épuration. On a un schéma directeur à hauteur de 50 000 euros. Je ne sais pas si Philippe, tu veux en dire deux mots en passant.
Oui, bah, simplement, le schéma directeur a plus de 20 ans et donc on s'était engagé, lorsqu'on a fait les travaux à la station d'épuration, on s'était engagé auprès des services de l'État à engager cette étude, ce schéma directeur. Et donc, on l'a programmé pour 2026. Le schéma directeur, c'est ce qui permet c'est la feuille de route un peu qui permet de programmer les travaux à l'avenir. C'est les extensions de réseau, c'est éventuellement du remplacement de parties de réseau. Ouais, c'est un petit peu
sur le très long terme.
C'est voilà, c'est sur du long terme, mais c'est ce qui permet un peu de programmer et d'échelonner les investissements.
Et puis je vous disais qu'on reviendrait sur l'emprunt et on voit moins 57 000. Donc effectivement, ça peut paraître surprenant. Alors, une petite précision, c'est que les budgets qui sont budget principal et assainissement ne sont pas fongibles entre eux. Ça veut dire que si le budget d'assainissement fait, par exemple, 50 000 euros de résultats positifs, ce résultat ne peut pas être réattribué au budget principal. Il est obligé de rester dans le budget annexe, le budget d'assainissement. En parallèle, pour faire tous les travaux de la station d'épuration qu'on évoquait tout à l'heure, on avait fait des emprunts. Et comme on a une trésorerie excédentaire sur le budget d'assainissement, les budgets ne sont pas fongibles. Par contre, les dettes sont fongibles. Ça veut dire que des dettes qui sont portées par la commune dans le budget principal viennent impacter aussi sa capacité d'autofinancement et sa capacité d'endettement dans le cadre du budget principal. Et donc, afin de maintenir un équilibre dans l'évolution des capacités d'endettement de la commune, on a fait le choix de procéder à un remboursement par anticipation à 57 000 euros, ce qui relève quand même un acte de gestion maîtrisé. Voilà. On a fini sur la présentation des budgets primitifs. Alors simplement quelques éléments de langage qui sont quand même importants à signifier. Les éléments financiers qui constituent le budget primitif, compte financier unique et l'affectation des résultats qui seront votés par délibération à l'issue de cette présentation seront disponibles sous le format réglementaire sur les supports officiels de la commune et ce dans les délais légaux. Cette présentation est une restitution synthétique du budget primitif à fin d'information et ne saurait en aucun cas constituer un document officiel, sauf erreur typographique et omission. Ça va toujours mieux en le disant. Merci de votre attention.
Merci. Merci, Michel. Merci.
Alors, c'est vrai qu'on fait le choix de cette approche qui est aussi, quelque part, une formation et d'information sur le fonctionnement du budget. Le travail de Michel est considérable pour présenter ça, et en même temps, en surlignage, on entend bien des débuts d'une analyse, et que Michel est capable de porter, de partager. Donc merci pour ce travail. Les éléments ont été transmis tout au long des nuits précédentes, donc on voit bien que tu y passes un certain temps. Voilà, je vais donc, comme vous l'avez décidé tout à l'heure, laisser la présidence à Philippe pour la délibération suivante. Et je vous quitte temporairement.
J'irai te chercher. Merci Pierre. Je vous propose donc... Ah oui, pardon.
Informatique préférée.
Déchu.
Ça ne s'affiche pas sur le.
Pourquoi on a ton fond d'écran et pas.
Je tiens à présenter mes excuses pour la délibération, les deux délibérations qui, sur le budget primitif et le budget d'assainissement. Je suis obligé de tout lire et donc voilà, c'est un petit pavé qu'il va falloir écouter. Donc je vous propose la délibération numéro 4 qui concerne le vote du compte financier unique, donc dit CFU. 2025 du budget principal. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est un nouveau dispositif depuis donc 2025, et donc c'est le premier exercice ce soir. Vu l'article 205 de la loi de finances numéro 2023-1322 du 29 décembre 2023, qui prévoit la généralisation du CFU au plus tard pour les comptes de l'exercice budgétaire 2026. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la présentation faite par Michel Prévost des documents annexés à l'ordre du jour présentant le CFU, vu le CFU 2025 du budget principal de la commune d'Alba-la-Romaine, considérant que le CFU se substitue au compte administratif et au compte de gestion par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces documents. Considérant que le CFU met en évidence des informations clés sur la situation financière de la collectivité, en particulier sur la présentation des résultats du bilan et le compte des résultats synthétiques et des taux des contributions et produits afférents. Considérant que le CFU est une procédure entièrement dématérialisée permettant la mise en place de contrôles automatisés entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable, ce qui simplifie leurs travaux en amont de la production du CFU. Considérant les dispositions de l'article L2121-14 du CGCT qui prévoit que dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote. Pierre est parti un petit peu avant. On parle encore de compte administratif parce que il faut, même si la réforme a eu lieu, on le retrouve encore dans ces termes dans le Code général des collectivités territoriales. Considérant dès lors que l'article susvisé interdit formellement au maire de voter son propre compte financier unique et qu'il ne peut donc pas donner et recevoir une procuration à ou de l'un des membres du conseil municipal, considérant que dans ce cadre, M. Pierre Lolanier, maire, a quitté la séance et que le conseil municipal a élu Philippe Bougnard, premier adjoint, pour assurer la présidence de la séance, considérant le CFU présenté et résumé comme suit par le président de séance. Concernant les recettes, prévision budgétaire totale en investissement 1 179 325,12 €, en fonctionnement 1 376 850,05 € pour un total cumulé de 2 556 175,17 €. Recettes réalisées 598 053,07 €. En fonctionnement, 1 396 787,75 € pour un total cumulé de 1 994 840,82 €. Reste à réaliser 145 394 en investissement, 0 en fonctionnement, pour un total donc cumulé de 145 394 €. Sur les dépenses, autorisation budgétaire totale, 1 219 828,60 € en investissement pour un fonctionnement de 1 612 702 € et donc pour un total cumulé de 2 832 530,60 €. Dépenses réalisées, 768 625,70 € en investissement et en fonctionnement 1 356 794,48 € pour un total cumulé de 2 125 420,18 €. Concernant les restes à réaliser, en investissement 182 350 €, en fonctionnement 0, donc pour un total cumulé de 182 350 €. Différence entre les titres et les mandats. Solde des réalisations de l'exercice en investissement, moins 170 572,63 €, en fonctionnement 39 993,27 €, pour un total cumulé de moins 130 579,36 €. Résultat antérieur reporté. En investissement, 40 503,48 €, en fonctionnement 235 851,95 €, et donc en total cumulé 276 355,43 €. Solde ou résultat de clôture. Donc on a en investissement un déficit de 130 069,15 € et un excédent en fonctionnement de 275 845,22 €. Pour un total cumulé de 145 776,07 €. Différence entre les restes réalisés en investissement, moins 36 956, 0 en fonctionnement, donc pour un total cumulé de moins 36 956 €. Et enfin, un résultat cumulé en investissement, un déficit de 167 025,15 € et en fonctionnement, un excédent de 275 845,22 €, et pour un total cumulé de 108 820,07 €. Je précise que tous ces chiffres ont été validés par le SGC, le service de gestion comptable. Le conseil municipal, après en avoir délibéré hors de la présence du maire Pierre Lelanier, étant sorti et n'ayant pas pris part au vote, approuve le compte financier unique de l'exercice 2025 du budget principal dressé conjointement par le maire et le comptable public, reconnaît la sincérité des restes à réaliser, arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, charge M. le maire de signer tous les documents afférents et à prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions ? Je vous propose de passer aux voix. Qui s'abstient, qui est contre, adopté à l'unanimité, je vous remercie.
s'est bien passé.
Tout parfait.
On peut poursuivre.
Adopté à l'unanimité.
Donc la délibération suivante, 2026-05, qui est l'affectation des résultats que vous venez de valider, en tout cas le résultat. On va regarder d'abord la section de fonctionnement. Je ne vais pas reprendre l'essentiel de tous les chiffres que vous venez de voir, vous devez les retrouver. Si on prend les dépenses de fonctionnement, l'opération de l'exercice s'élève à 1 356 794,48 €, qui est aussi le total puisqu'il n'y a pas d'autres lignes sur ces dépenses. Sur les recettes, est-ce que ça vous dérange si je vais au toto directement? C'est bon, ça vous va? Donc sur la ligne des totaux en recettes, donc du total de recettes, 1 632 639,70 €. Et bien sûr, si on fait la différence entre les deux colonnes, on arrive au résultat de clôture de l'exercice qui est de 275 845,22 €. Dans la section d'investissement, les deux colonnes suivantes, si vous retenez le principe des totaux, on continue. En total des dépenses, 768 625,70 €, et un total des recettes de 638 556,55 €. Soit, si on fait la différence, un besoin de financement qui s'élève à 130 069,15 €. Donc on est sur ce besoin de financement sur la somme que je viens d'indiquer, et la différence en tout cas de besoin de financement des restes à réaliser s'élève à 36 956 €. Le besoin total de financement de 167 025,15 €. Donc ce que je vous propose, si on considère l'excès de fonctionnement, on décide d'affecter la somme de 167 025,15 € au compte 1068 d'investissement et 108 820,07 € au compte d'excédent de fonctionnement reporté. C'est bon pour tout le monde. Je soumets cette délibération au vote. Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je repars.
Tu repars. Je vous propose d'écouter la délibération numéro 6, qui concerne cette fois le vote du compte financier unique 2025 du budget annexe d'assainissement. Et donc, je vais devoir relire à peu près la même chose, sauf pour les chiffres du tableau. Vu l'article 205 de la loi de finances pour 2024, numéro 2023-1322 du 29 décembre 2023, qui prévoit la généralisation du CFE au plus tard pour les comptes de l'exercice budgétaire 2026. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la présentation faite et proposée par Michel Prévost des documents annexés à l'ordre du jour présentant le CFU, vu le CFU 2025 du budget annexe d'assainissement de la commune d'Alba-la-Romaine, considérant que le CFU se substitue aux comptes administratifs et aux comptes de gestion, par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces documents. considérant que le CFU met en évidence des informations clés sur la situation financière de la collectivité, en particulier sur la présentation des résultats, du bilan et le compte de résultats synthétiques et des taux de contribution et produits afférents. Considérant que le CFU est une procédure entièrement dématérialisée permettant la mise en place de contrôles automatisés entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable, ce qui simplifie leurs travaux en amont de la production du CFU. Considérant les dispositions de l'article L2121-14 du CGCT qui prévoit que dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseiller municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote. Considérant que dès lors que l'article susvisé interdit formellement au maire de voter son propre compte financier unique, et qu'il ne peut donc pas donner, recevoir une procuration à ou de l'un des membres du conseil municipal, considérant que dans ce cadre, M. Pierre Lolanier, maire, a quitté la séance et que le conseil municipal a élu Philippe Bougnard, premier adjoint, pour assurer la présidence de la séance, considérant le CFU présenté et résumé comme suit par le président de séance. Concernant les recettes, prévision budgétaire totale, en investissement 104 549 euros, en exploitation 34 609,40 euros, pour un total cumulé de 139 158,40 euros. Recettes réalisées, en investissement 89 549 euros et en exploitation 57 812,53 euros, pour un total cumulé de 147 361,53 euros. Il n'y a pas de reste à réaliser sur les recettes. Concernant les dépenses, autorisation budgétaire totale, en investissement 152 726,48 euros et en exploitation 65 283 pour un total cumulé de 218 9,48 euros. Dépenses réalisées, 26 348,10 euros en investissement pour 29 059,15 euros en exploitation pour un total cumulé de 55 407,25 euros. Il n'y a pas non plus de reste à réaliser sur les dépenses. Concernant donc les différences entre les titres et les mandats, solde des réalisations de l'exercice. En investissement, 63 200,90 euros, pour en exploitation, 28 753,38 euros, pour un total cumulé de 91 954,28 euros. Résultat antérieur reporté, en investissement, 48 177,48 euros, en exploitation, 30 673,60 euros, pour un total cumulé de 78 851,08 euros. Concernant le solde ou le résultat de clôture, en investissement, un excédent constaté à 111 378,38 euros, et en exploitation, un excédent à 59 426,98 euros, pour un total cumulé de 170 805,36 euros. Et enfin, le résultat cumulé, donc pour l'investissement, un excédent de 111 378,38 euros et en exploitation, un excédent de 59 426,98 euros pour un total cumulé de 170 805,36 euros. Le conseil municipal, après en avoir délibéré hors de la présence du maire Pierre Lolanier, étant sorti et n'ayant pas pris part au vote, approuve le compte financier unique de l'exercice 2025 du budget annexe d'assainissement dressé conjointement par le maire et le comptable public. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, charge Monsieur le maire de signer tous les documents afférents et à prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Avez-vous des questions ? On passe aux voix. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération a été adoptée à l'unanimité.
Marie-Laure a dit de ne pas s'inquiéter, elle relisait avant de transmettre à la préfecture. Mais c'est une fort bonne remarque. C'est bon. On n'a pas fait la moitié du chemin. Hein. Il en reste encore quelques-unes. Délibération 2026-07 est sur l'affectation des résultats en ce qui concerne le budget d'assainissement. Je vais au toto, hein, c'est ça. Donc, dans la section de fonctionnement, si on regarde les dépenses, pour un total de 29 059,15 €. Sur la ligne des recettes, la colonne des recettes, le total de 88 486,13 €. Donc pour un résultat de clôture positif de 59 426,98 €. Si on regarde la section d'investissement, pour un total de dépenses de 26 348,10 € et un total de recettes de 137 726,48 €. Donc un résultat positif de 111 378,38 €. Donc quand on regarde la suite du tableau, on retrouve les deux chiffres qu'on vient de voir précédemment. Si tu peux descendre un tout petit peu. Encore, voilà. Donc, on reprend les deux chiffres qui étaient excédentaires tous les deux. Un excédent total de financement de 111 378,38 €. Et la proposition d'inscrire le résultat de fonctionnement de 59 426,98 € au compte 02 qui reprend cet excédent de fonctionnement qui sera reporté sur l'exercice suivant. Est-ce que je suis allé trop vite pour le coup ou est-ce que c'est bon, ça va? Vous préférez que ça aille vite. Alors, qui est pour? Accepté à l'unanimité, je vous remercie. Tiens. Dans la logique du déroulé de ces démarches budgétaires, il faut que d'abord on valide les excédents de l'année 2025, qu'on les ventile sur 2026, et avant de procéder au budget du vote des budgets primitifs, il faut qu'on vote le taux d'imposition. Comme ça, ça complète tous les outils qui servent à construire le budget primitif, si j'ai bien suivi.
Je propose de passer donc à la délibération numéro 8 qui concerne donc avant de passer au vote sur le budget primitif et le budget d'assainissement, donc
au vote des taux d'imposition pour l'année 2026. Donc le maire expose au conseil municipal qu'en application des dispositions de l'article 1639A du Code général des impôts, modifié par la loi numéro 2012-1510 du 29 décembre 2012, les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre doivent voter les taux d'imposition directe locale perçus à leur profit avant le 30 avril. Et ça, c'est valable uniquement pour les années d'élection municipale. Donc, nous rappelons que les taux en 2025 étaient pour la taxe foncière sur les propriétés bâties de 39,79%, pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 85,79%, et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et logements vacants est fixée à 13,66%. Ça, c'était pour 2025. Et donc, le conseil municipal propose donc de ne pas augmenter ces taux pour 2026 et donc de conserver 39,79 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, à 85,79 pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à 13,66% pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants. Avez-vous des questions sur le sujet? Je propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie.
Donc la délibération suivante, 2026-09, c'est le vote du budget primitif 2026 du budget principal. Quand même préciser que c'est un budget qui est voté dans ses grandes lignes, qu'après, quel que soit le résultat des élections, il y a toujours des possibilités de faire des modifications. Donc il vaut mieux l'avoir voté avant les élections pour avoir justement du temps pour pouvoir démarrer rapidement les actions, quel que soit le résultat des élections. C'est une précaution qui est intéressante pour justement que les actions puissent être vite enclenchées. Mais je répète qu'il y a toujours des possibilités de modification si tout ne convient pas, c'est fait dans les grandes lignes. Donc le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le budget primitif 2026 qui a été discuté en réunion de travail du 12 février 2026 après transmission des documents budgétaires selon les règles en vigueur. Si on regarde le tableau qui suit, Bernard. Voilà. Donc on retrouve toujours les sections d'investissement et de fonctionnement. Peut-être pas aller tout de suite au total parce que ça vaut le coup de regarder un petit peu les lignes. Sur les crédits d'investissement votés au titre du présent budget, il y a 604, en termes de dépenses, 695 349,85 €. Et des reports, des restes à réaliser de l'exercice de l'an passé pour 182 350 € et un solde d'exécution de la section d'investissement reporté, c'est un chiffre qu'on vient de voir, de 130 0,69,15 € pour un total de la section d'investissement de 1 707 769 €. Et c'est un, si on regarde les recettes, on est sur le crédit d'investissement voté au titre du présent budget pour un montant de 800, c'est juste en haut, vous ne voyez pas, mais 862 375 €, plus un reste à réaliser de l'exercice précédent, des RAR, qui s'élève à 145 394 €. Et bien sûr, ce sont toujours dans les budgets primitifs des budgets équilibrés, pour un montant total des recettes qui s'élève à 1 707 769 €. Pour le budget de fonctionnement, au titre des dépenses, on a là on peut aller directement pour les dépenses au total, puisqu'on a une section à 1 511 043 €. Et les recettes, elles se décomposent pour arriver au même total en 1 402 222,93 € sur le crédit de fonctionnement voté au titre du présent budget, et le report du résultat de fonctionnement, un chiffre qu'on a vu et que vous avez validé précédemment, de 108 820,07 €. Et bien sûr, un total équilibré qui s'élève à 1 511 043 €. Donc le total du budget, si on prend les deux sections de fonctionnement et d'investissement, de façon équilibrée entre dépenses et recettes, qui s'élève à 2 518 812 €. Alors, ça fait une redite, mais pour être sûr que tout le monde soit bien d'accord, c'est la forme qui veut ça. On reprend le budget sur un résumé de ce qu'on vient de voir. Pour la section de fonctionnement, un montant équilibré entre dépenses et recettes qui s'élève à 1 511 043 €. Et sur la section d'investissement, un budget équilibré entre dépenses et recettes à 1 007 769 €. Et un total entre les dépenses et les recettes équilibré également qui s'élève à 2 518 812 €. On précise que le budget est voté au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau du chapitre également pour la section d'investissement. On précise que les provisions sont semi-budgétaires. Et vous autorise le maire à procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel dans la limite de fonctionnement à hauteur de 7,7% et l'investissement de la même façon à 7,5%. Donne pouvoir au maire pour toutes les démarches et signatures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Pour vous redonner un peu d'exercice, qui est pour adopter à l'unanimité, je vous remercie. Donc je vous propose dans la foulée de procéder au vote de la délibération 2026-10 qui concerne le vote du budget primitif, du budget annexe d'assainissement. Voilà, vous êtes appelé à vous prononcer sur le budget primitif 2026 qui a été discuté en réunion de travail du 12 février 2026 et après transmission des documents budgétaires selon la réglementation en vigueur le 11 février 2026 qui se déroule comme suit. J'en profite de lire tout le temps que Bernard tape. Il nous amène au tableau. J'en profite pour dire que je passe pas la parole à mes collègues. C'est par parce que c'est la dernière fois qu'on vote un budget primitif. Et j'estime que c'est de ma responsabilité, mais après, je ne parle pas. Donc, vu d'ensemble du budget, ça reprend les éléments que vous avez vus précédemment. Toujours une section investissement, une section, on ne parle pas de fonctionnement, mais on parle d'exploitation sur le budget d'assainissement, mais c'est le même principe. En ce qui concerne la section d'investissement, les dépenses s'élèvent à 196 096,38 euros et le montant des recettes qui arrivera au même résultat passe par une crédit d'investissement doté au titre du présent budget à hauteur de 84 718 euros plus un solde reporté que vous avez vu précédemment de 111 378,38 euros. La comptabilité étant une science exacte, les résultats sont équilibrés. Et en termes d'exploitation, sur la section d'exploitation, sur un total en dépenses de 105 618 euros, et dans la colonne des recettes, c'est légèrement décomposé, mais vous ne serez pas étonné, le résultat est le même, et on passe par une ligne de crédit de fonctionnement votée à titre du présent budget de 46 191,02 euros, et le résultat de fonctionnement reporté que vous découvrez à nouveau de 59 426,98 euros. Et un total du budget de... Je vais être malade, Bernard, si tu continues. Dans les colonnes dépenses et recettes, de 301 714,38 euros. Pour mettre fin au suspense, je vous montre le tableau synthétique du budget primitif d'assainissement. Pour la section d'exploitation, un montant de dépenses et de recettes égal est équilibré à 105 618 euros. Et la section d'investissement, de la même façon, égale entre dépenses et recettes 196 096,38 euros pour un total commun de 301 714,38 euros. C'est de la même façon, les dépenses, le budget est voté au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement qui a changé de nom, c'est la section d'exploitation, je pense, au niveau du programme et pour la section d'investissement. Une correction, la première ligne, c'est section d'exploitation. C'est pour voir si on suivait, en fait. Donc, vous autorisez le maire à procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de fonctionnement et investissement limitée à 7,5%. Donne pouvoir au maire pour toutes les démarches et signatures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Je soumets cette délibération à vos votes, à ceux qui sont encore réveillés, qui est pour. Merci de toute votre attention. C'est toujours important, le vote du budget, même si ça paraît fastidieux. En fait, c'est ce qui va faire que notre collectivité puisse fonctionner.
Je vous propose de passer à la délibération numéro 11 qui concerne l'approbation de la modification de droit commun numéro 4 du plan local d'urbanisme. Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L153-36 et L153-37, vu la délibération en date du 31 mai 2010 approuvant le plan local d'urbanisme, vu la délibération 2022-91 du 22 décembre 2022 fixant les objectifs principaux suivants. Considérant que la commune d'Alba-la-Romaine avait, par une déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme approuvé le 17 janvier 2023, défini un secteur UB devant permettre la réalisation d'équipements publics, entre autres la crèche intercommunale. Considérant que ce terrain en zone UB s'avère finalement impossible à mobiliser en raison de fouilles archéologiques conséquentes, que la commune d'Alba-la-Romaine souhaite mobiliser un autre terrain déjà ouvert à l'urbanisation pour la réalisation de ses équipements publics qui répondent toujours à des besoins pour le territoire. Et je précise, exempte de toute fouille archéologique. Que le secteur de la commune étant en capacité d'accueillir ses équipements correspondant au secteur 1AU, AU Grande Terre, couverte par une orientation d'aménagement et de programmation qui prévoyait la réalisation d'habitats. Qu'afin d'intégrer le projet d'équipement public au secteur Grande Terre, il est nécessaire de modifier et de mettre à jour le programme de l'OAP actuel, de modifier les emplacements réservés initialement prévus pour la réalisation d'habitats, de mettre à jour le règlement écrit et le règlement graphique des zones 1 AU et AU afin de permettre la réalisation de ces équipements publics, que la zone UB initialement prévue pour la réalisation des 10 équipements n'ayant plus vocation à être aménagés, il est cohérent de la reclasser en zone naturelle. Considérant que le dossier d'approbation de la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU comportait des erreurs matérielles sur la programmation et les densités de l'OAP à Grande Terre et que la mise à jour de l'OAP Grande Terre pour l'intégration des équipements publics est l'occasion de rectifier ces erreurs matérielles. Considérant que le règlement graphique actuel ne permet pas de lire correctement les emplacements réservés et les différentes servitudes d'utilité publique et que la procédure de modification permettrait de réaliser un toilettage du règlement graphique du PLU. Considérant que les règles d'implantation des annexes par rapport aux bâtiments principaux décrites aux articles 6, 7 et 8 des zones UB, UC, AUO, 1AU et AU du règlement écrit du PLU ne sont pas compatibles avec la réalité des situations rencontrées lors de l'examen des autorisations d'urbanisme et qu'il est donc nécessaire de reformuler ces règles pour les zones précitées, considérant que les emplacements réservés suivants nécessitent d'être actualisés, soit modifiés, soit supprimés dans le cadre de la présente procédure. L'emplacement réservé numéro 4, numéro 5, numéro 9, numéro 10, numéro 12, numéro 15 et numéro 18. Considérant que l'ensemble des modifications apportées au PLU ne sont pas de nature à changer les orientations définies par le PAD des projets d'aménagement et de développement durable qui a servi donc à l'approbation du PLU en 2010. Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière. Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. Induire de graves risques de nuisance. Considérant que l'ensemble des modifications apportées au PLU sont de nature à rectifier des erreurs matérielles, améliorer la lisibilité du règlement graphique, mettre à jour des emplacements réservés, simplifier un article du règlement des zones UB, UC, 1AU, AU et AUO, modifier une OAP, le règlement et les emplacements réservés d'une zone 1AU et AU, réduire la surface d'une zone urbaine UB. Vu la consultation des personnes publiques associées en date du 31 juillet 2025, vu la décision de la mission régionale de l'autorité environnementale numéro 3896 de 2025 en date du 25 juillet 2025 au titre du cas par cas et la délibération 2025-57 prise par le conseil municipal le 26 novembre 2025 de la commune décidant de poursuivre la procédure sans se soumettre à une évaluation environnementale, vu l'arrêté municipal en date du 17 novembre 2025 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique relative à la modification numéro 4 du PLU, vu l'enquête publique qui s'est régulièrement déroulée du 2 décembre 2025 au 5 janvier 2026 sous la conduite de son commissaire enquêteur, M. Jean-Luc Couvert, vu les observations des personnes publiques associées répertoriées dans le rapport du commissaire enquêteur et les réponses apportées jointes en annexe, Vu les conclusions et avis du commissaire enquêteur annexé à la présente délibération, considérant que les résultats de la dite enquête ne justifient pas de rectification majeure, considérant l'avis favorable émis par le commissaire enquêteur sur le projet de modification tel que soumis à l'enquête, considérant que le projet de modification du PLU tel qu'il est présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé. Après en avoir délibéré à l'unanimité, le conseil municipal décide d'approuver la modification du PLU telle qu'elle est annexée à la présente délibération, dit que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R153-20 et R153-21 du Code de l'urbanisme, d'un affichage en mairie durant un mois, d'une mention dans un journal, dit que, conformément à l'article R153-21 du Code de l'urbanisme, le PLU modifié est tenu à la disposition du public en mairie d'Alba-la-Romaine et à la préfecture aux heures et jours habituels d'ouverture, dit la présente délibération et les dispositions engendrées par la modification du PLU ne seront exécutoires qu'après sa réception par le préfet de l'Ardèche, l'accomplissement des mesures de publicité, affichage en mairie durant un mois et insertion dans un journal, la publication sur le géoportail de l'urbanisme. Donne pouvoir au maire pour toutes les démarches et signatures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Avez-vous des questions ? Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie.
Merci, Philippe. Vous bénéficiez quand même d'une somme de délibération
qui est copieuse. C'est bon ?
La délibération suivante sera présentée par M. Philippe Evrard.
Je vous propose de mettre au vote la délibération numéro 12.
Attends le feu vert.
Donc, la délibération numéro 12 qui a pour objet la mise à jour annuelle du document unique d'évaluation des risques professionnels, dit DUERP. Vu le Code du travail, notamment ses articles L4121-3 et R4121-21-1 et suivants, vu le Code général de la fonction publique, notamment l'article L811-1, vu le décret numéro 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Vu le décret numéro 2022-935 du 18 mars 2022 relatif au document unique d'évaluation des risques professionnels et aux modalités de prise en charge des formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail par les opérateurs de compétences, vu l'avis favorable du Comité social territorial CST, réuni en formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail, F3SCT, en date du 26 février 2026, Monsieur Pierre Lollianier, maire, rappelle au conseil municipal que la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels est une obligation pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de plus de 11 salariés. Afin de répondre à cette obligation, la collectivité a poursuivi sa démarche de prévention en revisitant l'ensemble des risques, mais également en élargissant son champ d'action notamment à des secteurs d'activité en cours d'élaboration lors de la version initiale du DUERP, mise en œuvre au 1er janvier 2025. Accueil physique des habitants, piscine, surveillance des bassins et maintenance technique. Ce travail de mise à jour a été conduit jusqu'en janvier 2026, en premier lieu par l'assistante de prévention de la commune, puis au sein du comité de représentation des personnels communaux, CRPC, instance de dialogue social interne à la collectivité. Ont été associés à la mise à jour du DUERP le service d'hygiène et sécurité du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Ardèche, lié par une convention avec la collectivité depuis mars 2022. Le cabinet d'ergonomie Active Eau, qui a formé les membres du CRPC à la démarche de prévention des risques en 2023 et 2024. L'ensemble des risques potentiels répertoriés dans le DUERP initial ont été de nouveau passés en revue et réévalués. Le plan d'action associé au DUERP a également été actualisé en prenant en compte les actions menées en 2025 et les risques éventuels nouvellement apparus. Le document unique ainsi mis à jour sera consultable par voie dématérialisée sur l'intranet communal dans le dossier ressources humaines, documents essentiels. Un exemplaire papier sera consultable par les agents, dans la salle de réunion du premier étage de la mairie, ainsi que dans la salle communale du hangar technique. Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels et le plan d'action annexé à la présente délibération. Approuve l'engagement de l'autorité territoriale à mettre en œuvre le plan d'action issu de l'évaluation des risques et à en assurer le suivi, ainsi qu'à procéder à une réévaluation régulière du document unique. Donne pouvoir au maire pour toutes les démarches et signatures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie.
La délibération suivante sera lue, présentée par Catherine Nénon.
Délibération 2026-13. Création d'un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe à temps non complet. Vu le Code général de la fonction publique, conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Considérant qu'il appartient à l'Assemblée délibérante de créer des emplois à temps complet ou à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services, d'en déterminer le temps de travail, de préciser le ou les grades des fonctionnaires susceptibles d'occuper ces emplois et d'indiquer si ces derniers peuvent être occupés par un agent contractuel sur le fondement des articles L.332-14 et L.332-8 du